Et c'est la revue de presse de Claude Askolovitch. Claude, on parle de civilisation.
Et d'un sport qui en serait la preuve. Le cricket, dont la Coupe du Monde se dispute au Royaume-Uni et dont Éric Le Boucher porte le deuil ce matin dans l'opinion. Car le cricket est entamé. Il était un sport lent et chic qui se jouait immuablement selon des règles établies en 1744 et se pratiquait de truly sportsman manner, comprenez, avec classe. Mais la classe a lassé la mère patrie. En Grande-Bretagne, seuls 5% des enfants de 5 à 15 ans portent encore le cricket au cœur. Et voilà le drame. Pour ne pas disparaître, le cricket va s'adapter au temps moderne, accélérer son jeu, réduire ses temps morts qui faisaient son charme. Et nos amis de France Info l'ont dit et écrit sur leur site internet, le cricket travaille même avec Google pour créer un système capable d'éviter la pluie. Shocking. Le Boucher a lu cela et aussi un livre, Les Barbares d'Alessandro Barrico, et en tire cette conclusion. L'adaptation du cricket après d'autres à l'âge de l'immédiateté et de la distraction de masse, la fin de la lente patience et des apprentissages, là est la barbarie. Pourtant, hier à Manchester, je lis dans le Guardian, des supporters de l'Inde et du Pakistan étaient fraternellement entremêlés dans un match fabuleux. Pourtant, je le lis dans un site génial, cricket.com, vous voyez, je m'adapte. Deux stars, l'Indien Virat Kohli et l'Anglais James Anderson, ont demandé aux fans de ne plus huer. Deux joueurs australiens convaincus il y a un an de tricherie. Mais pardonnez le tricheur, n'est-ce pas là la barbarie? Je vous livre ces réflexions ce jeune matin où des lycéens s'en vont philosopher pour le bac et c'est pour l'Union la fin d'un mythe. Car avec le nouveau bac, c'est dans 2 ans, la philo comptera si peu dans la note finale, même en littéraire, que les lycéens forcément vont la délaisser, disent prof et gamin rémois. Il faudra alors pour la philo s'adapter, liche comme le cricket. Libération célèbre tiens en portrait une de nos chroniqueuses, Marie Robert, qui quand elle avait 7 ans doutait de ce qu'elle voyait et qui donc adulte philosophe et approche Kant et Descartes de nos vies quotidiennes. Elle fait de la boxe aussi. Nous y voilà donc au sport qui n'est pas que barbare. En France ce matin, le sport est époustouflant par cet acrobate dans l'Est républicain, Pablo Signoret, qui au-dessus de Besançon a marché sur un fil 800 mètres entre Brégé et la Citadelle. Il est émouvant le sport par la dignité des quinzistes de Clermont-Ferrand dont la montagne nous raconte l'après-défaite. Il est le sport amour dans le Parisien pour l'équipe de France féminine, mais aussi raison dans la Voix du Nord qui se demande si nos bleus ES font vendre pas encore assez. Mais les bleus ES suscitent des vocations. Car je lis aussi dans la Voix du Nord et dans le journal de Centre que 2 lycéennes vont devenir arbitres, l'une étant sport-études à Lens, l'autre entraîne les mouflets de sa commune de Chaugnes. Elles disent « Il faut savoir être à l'écoute et s'imposer, on doit montrer qu'on respecte tout le monde si on veut l'être à notre tour respecté. » Toutes les deux, ma chère, s'appellent Léa. Ce prénom est une vocation.
On parle de saga dans les Échos.
En est-il d'autres, saga Léa, saga économique. Première saga européenne et d'un charme puissant et suranné à la fois, Airbus qui au Salon du Bourget domine la scène et Boeing de son A321 XLR et qui présente aujourd'hui le futur avion de combat franco-germano-espagnol. Les aventures d'Airbus et de Bourget se trouvent dans la Dépêche, dans le Parisien, dans le Figaro, dans Libération, mais ce sont les Échos qui captent ma mémoire en me rappelant les débuts malaisés de cet avion que dans les premières études on surnommait la grosse Julie. Oh, c'était en 1969 quand un ministre allemand, un ministre français signait au Salon du Bourget un accord, mais la grosse Julie aurait pu ne jamais voir le jour par la faute de nos folklores politiques français et des perfidies anglaises. Ça s'est arrangé. Autre saga, celle-là tellement contemporaine, celle de Monsieur Zuckerberg qui méprise les critiques et qui va désormais, me disent les Échos avec moult détails, battre monnaie, je veux dire monnaie virtuelle. Il travaille, le monsieur de Facebook, avec Visa, Mastercard, Booking et Uber pour créer un Libra qui sera indexé sur des grandes monnaies et qui, sur les plateformes, permettra de faire commerce. Le français Xavier Niel de Free et du Monde est dans le tour de table. Niel qui, par ailleurs, veut s'engager pour sauver Nice ce matin. Voilà les vraies puissances. Nous sommes journalistes à leur marge. Nous les racontons en survivant un peu. Une grève se prépare ici à Radio France. Un préavis a été déposé pour demain, réponse des syndicats au plan de rigueur de la direction qui prévoit des économies de 60 millions d'euros pour compenser des retraits de l'État, mais aussi une augmentation des charges salariales. Dans Mediapart, un article acerbe, mais aussi enquêté, affirme chiffre à l'appui que la direction aurait chargé la barque. Et ce qui arrive à Radio France témoignerait, selon Mediapart, d'une offensive politique plus large contre l'audiovisuel public. Tiens, je lis sur le site du journal du dimanche que la présidente de Radio France a été interpellée au Sénat et à l'Assemblée sur les temps de travail des salariés de cette maison. C'est une ambiance.
Et on parle de lutte, Claude, pour finir.
Que la planète regarde avec admiration, et le Figaro est à lire vraiment ce matin sur Hong Kong, d'autres luttes que parfois seuls des localiers contemplent, et je découvre dans Paris-Normandie qu'à Saint-Antoine-de-la-Forêt et à Euqueville, des parents luttent pour éviter des fermetures de classe, ils dorment parfois dans les écoles. Je lis enfin, c'est dans Le Monde, que tout à nos problèmes, nous sommes menacés sans même savoir comment. On me raconte, enquête internationale, la saga d'un pesticide qui volerait en moyenne 2,5 points de quotient intellectuel à chaque enfant européen. Le chlorpyrifos, conçu pour éliminer pucerons et chenilles, poursuit son existence, me dit Le Monde, sous la forme de traces dans les oranges, les pommes, la laitue, l'urine des enfants et le cordon ombilical des femmes enceintes. On connaît ces méfaits depuis longtemps, mais il ne va être à proposer l'interdiction par l'Europe que cette année. En France, on ne le pulvérise que sur les épinards. Pauvre Popeye, pardon.
Merci Claude.